Aujourd'hui, à Histoire d'idées, superstition magnétique et boussole satanique. Les superstitions sont autant d'éléments fondamentaux de la culture des sociétés. Intimement liées au niveau de conscience et d'éducation des populations, ces inventions de l'esprit, même si totalement imaginaires et infondées, ont constitué des barrières, cette fois bien réelles, empêchant ou retardant de grandes avancées. On n'a qu'à penser à la Terre plate du 8e siècle, à la photographie voleuse d'âmes ou à l'épilepsie du 2e millénaire avant Jésus-Christ. L'humain a, au fil de son histoire, lorsqu'il ne pouvait les expliquer, associé des vertus mystiques à de nombreux phénomènes qui n'avaient pourtant rien de réel, rien de divin, ni rien de magique. La grande histoire de la navigation fut de tout temps un terreau des plus fertiles pour ces élucubrations de l'esprit. On n'a qu'à penser aux éternels récits de sirènes, de monstres marins, de vaisseaux fantômes. Pour les Portugais du 12e siècle, le Cap Bojador était la fin du monde habité. Si aucun marin ne parvenait à dépasser ce point précis de la côte ouest africaine, ce n'était pas en raison d'un obstacle naturel, mais plutôt sur la simple foi d'une idée partagée. On est en droit d'ailleurs de se demander si les Portugais auraient autant contribué à l'innovation navale si ce fameux cap n'avait jamais été traversé. Toutefois, c'est une autre superstition, cette fois parmi les plus tenaces, qui eut pour effet de retarder significativement la grande aventure de la navigation. Il faut remonter au 4e siècle avant Jésus-Christ, plus précisément dans la cité-état chinoise de Zen, pour voir l'invention d'un outil qui allait révolutionner la manière de naviguer, ou plus précisément la manière de s'orienter. Avant cette innovation, les premières navigations étaient essentiellement côtières, les marins préférant longer les terres dont ils utilisaient les dénivelés pour s'orienter. Traverser un océan comme l'Atlantique ou le Pacifique était impensable, à une époque où un simple ciel nuageux rendait totalement impossible le repérage par les moyens traditionnels. On avait besoin pour faire le point, soit des étoiles, soit du soleil. Ce sont les Chinois qui, en observant le comportement d'une pierre toute particulière, la magnétite, qui furent les premiers à recenser une force qui allait révolutionner cet art de naviguer, le magnétisme. Véritables pionniers dans l'utilisation de cette propriété naturelle de la matière, lorsqu'ils l'enchâssèrent au cœur d'un boîtier immergé, la boussole était née. Et il fallut attendre plus de 1000 ans pour voir les premières boussoles faire leur apparition en Europe. Une innovation capitale qui fut toutefois accompagnée d'une forme de schisme religieux. En effet, l'Église catholique de l'époque voyait d'un mauvais œil ce nouvel outil magnétique. Sans toutefois la bannir totalement, le Saint-Siège nourrit un fort sentiment de mépris face à cette possibilité d'hérésie. C'est probablement les avantages incontestables qu'offrait la boussole qui permirent à cette dernière d'échapper à l'excommunion chrétienne. Si on toléra la boussole, on lui fit si mauvaise presse qu'elle dut longtemps être enfermée dans un boîtier, de manière à la soustraire à la vue des marins. Une superstition ancrée si profondément que, plusieurs siècles durant, le capitaine qui utilisait la boussole fut considéré comme une forme de magicien, maniant des forces occultes. Depuis le siècle des Lumières, la science ne cesse d'éclairer les consciences et de libérer les collectivités de leurs superstitions passées. Ayant rationalisé nos peurs, nous avons réussi dans les derniers siècles à éliminer ces barrières imaginaires et à nous libérer d'un mysticisme nous ayant, par le passé, trop souvent immobilisés. Au point même de penser que plus aucune superstition ne pourrait aujourd'hui nous ralentir, encore moins nous arrêter. Mais si ces mêmes superstitions s'étaient tout simplement transformées, saurions-nous les reconnaître? Et quoi qu'il soit impossible de deviner quelle forme elles prendraient, à notre époque de rationalité, ne serait-il pas hasardeux et prétentieux de s'imaginer en être totalement immunisé? Se pourrait-il que des choses que nous considérons comme des réalités pourraient en fait naître que de simples idées? C'est ce qui complète cette chronique. Ici Jean-Sébastien Girard, qui vous rappelle de ne jamais négliger votre dernière idée, car c'est peut-être celle qui fera que le monde va changer. Au revoir et à une prochaine histoire d'idées.